Chapitre 22. De retour à Saucy, George l'entraîne dans des rues sombres et désertes qui abritent des compagnies de taxis et des dépôts de camions. Il est plus d'une heure du matin à présent, et Mary Pat éteint ses phares pour éviter que George ne la repère derrière lui. Il n'y a personne dans le coin, semble-t-il, juste eux deux, cahotant sur les pavés des rues dans l'obscurité. Peu de réverbères en service, un bar qui accueille les membres du syndicat des camionneurs et qui ferme à 11 heures. Mary Pat ralentit et roule au pas. Même avec les phares éteints, si George baisse sa vitre, il pourra certainement l'entendre brinque-baller derrière lui sur les pavés. Elle laisse la longueur de 2 pâtés de maison entre elle et lui et fait de son mieux pour éviter les nids de poules. Il entre sur un parking en face d'une longue rangée de box pour voitures. Il sort de son Impala, déverrouille le 3e garage en partant de la droite et relève la porte basculante. Il fouille dans ses poches avant d'entrer et d'aller à l'arrière d'une Chevrolet Nova. Il ouvre le coffre, ressort, empoigne le sac marin dans le coffre de l'Impala. Sans les fusils, le sac est beaucoup plus léger que lorsqu'il l'a trimballé avec Brian Shay pour traverser Bay Road. Mais il est encore suffisamment lourd pour que son épaule droite s'affaisse un peu et sa tête s'incline du même côté tandis qu'il le porte jusqu'au coffre de la Nova. Il referme le coffre à clé, abaisse la porte du garage, la ferme à clé également, remonte dans son Impala et les voilà repartis. Le trajet n'est pas long. George gare l'Impala dans East Second, au bout de la rue où se situe la résidence officielle de sa mère. Mary Pat l'observe couper entre 2 maisons, puis, suppose-t-elle, il saute par-dessus les clôtures des jardins jusqu'à la maison de sa mère et y entre par l'arrière. Cette supposition est confirmée quelques minutes plus tard, lorsqu'une lumière s'allume dans une pièce du coin à l'étage de la maison de Lauren Dunbar. Une demi-heure après, la lumière s'éteint. Mary Pat reste là où elle est 10 minutes de plus, au cas où il ressortirait, mais rien ne se passe. Il s'est couché, elle en est presque sûre. Il est 2 heures du matin. N'importe qui, avec un peu de bon sens, dort maintenant. Elle repart avec Bess, remonte East Second et retourne à ce garage. Le parking et les rues voisines sont aussi sombres et tranquilles que lorsqu'elle en est partie. Aussi, elle décide de se garer sur ce parking, présumant que toute personne qui s'amènerait dans le coin à cette heure de la nuit ne serait pas non plus animée des meilleures intentions. Alors, autant avoir Bess tout près, au cas où il lui faudrait décamper au plus vite. Le cadenas que George a attaché à la porte du garage est d'un modèle tout à fait courant. Pourtant, il résiste au rossignol de Dukie, ou tout au moins, à la façon dont elle s'en sert. Dommage, elle commençait juste à crâner un peu au sujet de sa capacité à crocheter une serrure. Intérieurement, elle rembarrait déjà Dukie, à titre posthume, à propos du refrain qui lui sortait sans arrêt, sur le fait que crocheter une serrure nécessitait un savoir-faire dont les gens ordinaires n'avaient pas conscience. Après une 4e tentative infructueuse, elle abandonne et y va avec le coupe-boulon. Quand le bas du cadenas tombe par terre en cliquetant et que la partie supérieure reste prise entre les lames de la pince coupante, elle se dit « savoir faire mon cul ». Mais tout de suite, elle change d'avis quand elle parvient à crocheter le coffre de la Nova du premier coup. « J'ai pas perdu la main, Dukie », lui dit-elle en ouvrant le coffre et braquant sa torche à l'intérieur. Le sac n'est pas fermé et elle en voit le contenu immédiatement. Mais ce qu'elle a sous les yeux lui paraît aberrant. Ça ne devrait pas. Que s'attendait-elle à y trouver d'autre? Et pourtant, cela lui semble incroyable. Il y avait un code à ça aussi. Il y avait des choses qu'on ne faisait pas. On ne mouchardait pas. On ne tournait jamais le dos à un membre de sa famille, même si on le détestait. On ne disait jamais ce qui se passait dans le quartier à une personne étrangère au quartier. Et on ne vendait jamais de drogue. Jamais. Jamais, au grand jamais. Le sac est rempli de drogues diverses. des kilos de poudre brune, des kilos de poudre blanche, des pains d'herbe, des tubes en plastique remplis de comprimés. Ce n'est pas la cam de George Dunbar, ça. Ces produits lui ont été donnés. Ils lui ont été confiés par Brian Shay. Cette cam appartient à Marty Butler. Ça fait des années que tout le monde se demande pourquoi Marty et sa bande ne parviennent pas à empêcher la drogue de se répandre dans Saucy. Maintenant, elle connaît la réponse. C'est parce que ce sont eux qui la font entrer. Ils tuent les leurs. Ils ont rendu esclaves toute une génération de gosses, esclaves des comprimés, esclaves du miroir et du billet roulé, esclaves de la seringue et de la cuillère. Ce n'est pas la drogue qui a tué Noël. C'est la bande de Butler qui l'a tué. Tout comme ils ont tué son père. Tout comme ils ont tué sa sœur. La bande de Butler a tué la famille de Mary Pat. Elle s'appuie contre le mur au fond du garage et réfléchit à tout cela. Elle ne saurait expliquer pourquoi, mais au lieu des larmes, au lieu de la rage, tout ce qui sort de sa bouche, c'est un petit rire sec. Elle voit flotter devant ses yeux le visage fade de Marty, ce visage de mannequin pour catalogue de mode. « Tu as tué ma famille !» murmure-t-elle dans le silence du garage. Le visage lui sourit. « Je vais tuer la tienne », lui promet-elle. George Dunbar arrive au garage à 8h du matin. Il remarque tout de suite qu'il n'y a plus de cadenas. Ses yeux restent rivés sur l'endroit où il était fixé. Il regarde sur le parking en face. Dans les jumelles de Dukie, elle peut voir qu'il est en train de faire un rapprochement. La drogue volée hier, et maintenant ça. Il comprend que 1 plus 1 égale quelqu'un l'a pris pour cible. Il pose la main contre le mur extérieur du garage, il vomit, 2 fois. Quand il a terminé, il s'essuie la bouche. Il se penche et remonte lentement la porte du garage. Ses traits se détendent un peu quand il voit la Nova à sa place, juste comme il l'a laissée. Il se précipite à l'arrière de la voiture. Mary Pat enclenche la marche avant et fait rouler Bess jusqu'à 5 ou 6 mètres de l'entrée du garage. Elle descend, s'appuie contre le capot et attend. Elle l'entend à l'intérieur, tandis qu'il fouille dans le coffre pratiquement vide. Il pousse des espèces de couinements affolés. Il referme le coffre. Il s'avance vers la porte du garage, les lèvres en mouvement, marmonnant pour lui-même. Puis, son regard tombe sur elle. Et il sait. Il ne sait pas encore comment il le sait. Mais il sait. Il fonce. Il se rue droit sur elle, les bras tendus comme Frankenstein. Elle sort le revolver qu'elle a volé à son dealer et colle le canon au milieu de sa poitrine. « Je peux appuyer sur la détente tout de suite et aucun tribunal dans ce pays ne me condamnera. Probable même qu'ils me fileront une médaille. Alors, George, tu veux qu'on fasse comment ?» Il baisse les mains. À l'intérieur du garage, la porte baissée, elle le palpe à la recherche d'une arme, mais ce matin, il n'en a pas. Elle remarque une lampe baladeuse dans une gaine de plastique orange accrochée dans un coin et branchée à une rallonge. Elle la prend et la suspend au-dessus du capot de la voiture. Et elle voit George retrouver un peu de son assurance. Ça se voit dans ses yeux d'abord. C'est moins un épanouissement qu'une sorte de retrait, à la façon dont ils deviennent ternes, dénués de toute expression, l'estime de soi exceptée. L'assurance était une qualité qu'elle avait remarquée chez lui longtemps auparavant, alors qu'il était le meilleur ami de Noël et qu'il était tout le temps fourré chez eux, avant la drogue, avant les filles même. À l'époque où ils parlaient sans arrêt de sport et se disputaient à propos de cartes à échanger. Déjà à ce moment-là, George avait une maîtrise de soi remarquable. Il paraissait indifférent à ce que les autres pensaient de lui et n'éprouvait aucun besoin de s'exprimer. L'incapacité à s'exprimer n'était pas quelque chose d'inhabituel chez les jeunes de Saucy. Mais la réticence de George n'était pas une question d'incapacité. C'était, comme Mary Pat l'avait toujours senti, une question de volonté. et de profonde arrogance. George, d'aussi loin qu'elle s'en souvienne, paraissait intimement convaincu qu'il était meilleur que n'importe qui d'autre, plus intelligent, plus rusé, moins sentimental. Avec ses traits fins et ses cheveux blonds coupés courts, ses yeux aussi verts et froids que la terre de ses ancêtres, George Dunbar, par son calme naturel, donnait à presque tous ceux qui le connaissaient le sentiment déconcertant qu'il était effectivement plus intelligent et plus rusé, qu'il était effectivement meilleur. George fait ce numéro depuis si longtemps qu'elle se rend compte qu'il y croit lui-même. « Ça a dû bien vous amuser ?» dit George. Elle lui lance un regard interrogateur. « Le rêve que vous avez fait sur la façon dont ça allait se passer ?»« Et comment j'ai pensé que ça allait se passer ?»« Vous alliez me voler ma marchandise et je vous dirai tout ce que je sais sur votre fille. » »«
C'était ça, mon rêve. »
Elle fait mine de réfléchir à cette idée. « Mais voilà comment les choses vont vraiment se passer, » poursuit-il. Elle attend, un sourire aimable sur les lèvres. Il s'adosse à sa voiture, pas le moins du monde inquiet, la tête levée vers le plafond. « Vous allez me rendre ma marchandise, sinon mes fournisseurs vous tueront avant la fin de la journée. Et là, ce que vous aurez découvert sur votre fille n'aura plus beaucoup d'importance. »
« Tu dis toujours « votre fille » comme si tu ne connaissais pas son nom. »
Il soupire. « Mais si vous me rendez ma marchandise, je ne dirai rien à mes fournisseurs. » Il s'écarte de la voiture, les yeux ouverts, mais durs. « Et vous pourrez retourner à votre vie. »
« Par fournisseur, tu entends Marty ?»
Il fait la grimace et lâche. « Peu importe. »
« Donc, ta proposition, c'est...
Tu me laisses la vie sauve et tu ne racontes pas à Marty que je t'ai piqué ta marchandise parce que
t'es un type sympa ?»
Elle réduit la distance entre eux.
« Ou bien parce que si Marty ou l'un de ces gars découvre que tu as perdu 2 approvisionnements en une seule journée, eh bien, George, tu vois... »
Elle a un petit rire.
« Ta vie ne vaudra plus grand-chose. »
George lui réplique avec son petit rire à lui, mais un éclair passe tout de même dans son regard. « Ok, je vous accorde que je perdrai mon job. Mais je retournerai à la fac, c'est tout. »
« Oh, George. George. »
Elle secoue doucement la tête.
« Pour Marty, tu as échoué 2 fois.
En plus, tu peux aider la police à prouver que c'est lui qui est responsable si la drogue se répand dans ça aussi. » Tu connais ses filières, ses fournisseurs, je suppose. Tu connais même probablement quelques-uns des flics qui l'arrosent. Elle voit que ces mots ont fait mouche comme autant de coups au corps. Elle s'approche suffisamment pour qu'il sente son souffle sur son visage.
George, si tu es encore en vie 24 heures après que le bruit se sera répandu, que tu as perdu la dernière livraison de Marty, je ne croirai plus du tout en la façon dont ce monde fonctionne.
« Ma mère ?»«
Baise avec Marty, oui.
Je sais. Ça ne sera pas suffisant pour te sauver. Marty aime le cul, mais il aime l'argent encore plus. » Il ne dit rien pendant 1 minute. Il baisse les yeux sur les mains de Mary Pat.
« Si vous n'aviez pas ce flingue !»
Elle recule, lève son arme.
« Ce flingue ?»
Elle le glisse dans sa ceinture, dans le bas de son dos.
« Plus de flingue ?»
Il jette un coup d'œil à la porte derrière elle, mais ne bouge pas.
« Tout ce que tu as à faire, c'est me bousculer pour passer, »
lui dit-elle. Il réfléchit aux options qu'il a.
« Tu as juste à m'écarter, George. »
« Vous croyez peut-être que j'en suis pas capable ?» Elle rit tout haut.
Elle ne peut pas s'en empêcher.
« C'est exactement ce que je crois, George.
Tu n'as plus beaucoup de temps. »
« Attendez. »
« Non. »
dit-elle.
« Décide-toi.
Écarte-moi de ton chemin. Rendez-moi ma marchandise.
Va te faire foutre avec ta drogue.
Rendez-moi. » Elle s'approche de lui de nouveau.
« Tu n'auras ta drogue que quand je sortirai d'ici après avoir eu tout ce que je veux. Alors, soit tu essaies de m'écarter de ton chemin, soit tu arrêtes ton numéro et on avance. » George lui refait ses yeux morts. Elle le voit bien en train de s'entraîner à ça pendant des années devant un miroir dans la maison de sa mère. « Je suis un homme d'affaires, » dit-il. « Négocions. »«
Tu n'es qu'un petit con, » dit-elle. « Est-ce que tu as remarqué ce qu'il y avait dans ton coffre ?»«
C'était pas ma marchandise. » »«
La drogue, c'est ce qu'il n'y a pas dans ton coffre, oui. » « Mais est-ce que tu as remarqué ce qu'il y avait ?»
Il réfléchit. « Il y avait un sac de sport. »«
Qu'est-ce que tu en as fait ?»«
Je sais pas. »
Elle le montre d'un signe de la tête. « Tu l'as jeté sur le côté, George.
Il est juste derrière toi.
Va le chercher. »
Il fait une grimace de mépris. « Va le chercher. » Elle tire le revolver de son dos et le frappe sur le front avec la crosse. Il a les yeux qui s'emplissent de larmes et il chancelle en arrière. « Putain de merde !»«
La prochaine fois, c'est ton petit nez parfait. »
Il va chercher le sac.
« Pose-le sur le capot et ouvre-le. »
Il obéit. Regarde à l'intérieur. Il reste interloqué devant ce qu'il voit. Au bout d'un moment, elle est pratiquement sûre que l'hésitation sur le visage de George vient du fait qu'il a compris ce que les objets dans le sac signifient et non pas d'une confusion quelconque. Sous la lumière crue et soudaine, ces objets prennent un éclat jaunâtre et criard. Une seringue, une cuillère, un briquet, un morceau de tuyau en caoutchouc, un compte-gouttes rempli d'eau et un petit sachet en plastique avec de la poudre brune à l'intérieur.
« Je suppose que tu reconnais ta propre marchandise. »
Il regarde le tout. Et alors ? Elle soupire.
Je t'ai toujours accordé le mérite d'avoir un cerveau.
Un cœur peut-être pas, mais un cerveau. D'un mouvement de son arme, elle indique les objets. Tu la vends.
Maintenant, tu vas l'essayer. Sinon, tu ne reverras plus jamais ta marchandise.
Il rit. D'un rire censé être moqueur, mais où transparaît la peur. Vous pouvez toujours courir. Elle tire une balle près de ses pieds. Il fait un bond, se bouche les oreilles. Elle ne se bouche pas les siennes, mais à présent, elle est sourde comme un pot. Voilà ce qui arrive quand on tire une balle dans un local de 6,5 mètres sur 3,5 mètres avec une porte métallique.
Stupide, Mary Pat, stupide, stupide, stupide.
Mais le temps du bavardage est peut-être bien fini parce que George plonge la main dans le sac. Il entoure son biceps avec le tuyau en caoutchouc, fait un nœud. Il tape sur la peau au creux de son coude et cherche une veine. Il ne s'y prend pas très bien parce qu'il ne fait pas cela par expérience, mais seulement après avoir observé pendant des années les pauvres andouilles grâce à qui il gagnait tout son fric. Au bout d'un moment, le tintement dans les oreilles de Mary Pat s'est suffisamment calmé pour qu'elle puisse parler.
« Laisse-moi t'aider. »
Elle remet son revolver dans sa ceinture contre sa colonne vertébrale, prépare la poudre dans la cuillère, ajoute l'eau qu'elle fait chauffer avec le briquet. Elle avait regardé Noël le faire un jour, peu avant la fin, alors qu'elle l'avait viré de la maison avant qu'il n'y ait plus rien à y voler. Il en était arrivé au stade où il se fichait de tout, et il était assis sur le banc du terrain de jeu sous le lampadaire à moitié démoli. Elle l'avait observé depuis l'autre bout du terrain. Hors de sa ligne de mire, appuyée contre le bâtiment Jefferson, consciente que ce qu'elle observait était un suicide. Cela pourrait prendre des mois, ou peut-être des semaines. Ça avait pris entre les deux. Ça n'en était pas moins le meurtre prémédité de sa propre personne. À cette époque-là, il avait multiplié les séjours en centre de désintoxication. Il l'avait volé, il avait volé sa sœur, il avait volé Ken Fenn, il avait volé tous ses amis, jusqu'au moment où il n'avait plus eu d'amis. À l'exception de George, son fournisseur. Elle voit George tapoter de nouveau l'intérieur de son coude et elle tend la main, puis lui pince la peau si fort qu'il hurle.
Aïe ! C'est comme ça qu'on trouve une veine.
Il prend la seringue, aspire tout le liquide dans la cuillère. Une fois que la seringue est pleine, il la lui tend. Elle secoue la tête.
Je ne t'aiderai pas à te shooter avec ton propre poison. Il faut à George 4 tentatives hésitantes avant d'émettre un sifflement et d'enfoncer l'aiguille dans sa veine. Il croise son regard, le pousse sur le piston et elle attend. Il appuie sur le piston. Il retire l'aiguille, la lui tend. Et maintenant, on attend. Quand il commençait à planer, Noël se mettait à parler de tout et de rien, à l'époque où il vivait encore avec eux et utilisait la salle de bain pour se piquer. Il en sortait, les yeux rêveurs et détendus, il s'asseyait à la table de la cuisine avec elle et discutait le bout de gras à propos de n'importe quoi, sans inhibition, pendant une dizaine de minutes. Puis, elle le perdait. C'est ce moment de faiblesse, environ 5 minutes après, mais pas plus de 15, qu'elle attend. Qu'est-ce qui est arrivé à Jules après que vous avez tué Augie Williamson? Il hausse les épaules. George, dit-elle, qu'est-ce qui s'est passé? Un autre haussement d'épaules. Je sais pas. Elle est partie avec Frank. Et après? Vous l'ai dit, c'est pas. Elle le dévisage. Est-il assez malin pour mentir sous l'influence de son premier fixe d'héroïne? Est-ce que quelqu'un a une volonté suffisamment forte pour ça? Il lui sourit. Un sourire lointain, rêveur. Entendu, mais pas arrogant. Vous savez couler du béton? Lui demande-t-il.
Tu le mélanges et tu le coules.
Il soupire. Vous l'avez jamais fait, hein?
Non, George. Jamais.
La plupart des gens croient que c'est facile. On prend un sac, on le mélange avec de l'eau et on le pose avec une truelle. On attend que ça sèche.
Elle sent que ce n'est pas un sujet pris au hasard entre eux. Elle sait que l'activité de la famille de George, démarrée peu après la Seconde Guerre mondiale par les oncles et le père de George, aujourd'hui décédé, c'est le ciment. Mais ce n'est pas facile, l'encourage-t-elle.
Il secoue longuement la tête. Pas si vous l'avez jamais fait. Pas si vous ne savez pas ce que vous faites. Pas s'il fait 30 degrés dans votre cave par une journée d'été et que vous n'avez pas bien fait le mélange de toute façon, parce qu'alors là, il se met déjà à se fendiller 5 minutes après qu'il a commencé à sécher et il commence à sécher 5 minutes seulement après que vous l'avez étalé. Ce que vous avez dans ce cas-là, c'est un beau gâchis. Vous ne pouvez plus atteindre ce que vous essayez de recouvrir définitivement, mais vous ne l'avez pas recouvert définitivement non plus. Je veux dire, ce que vous avez voulu enterrer est là, comme un insecte pris dans la glace. Et les odeurs vont vous empoisonner. Il se laisse glisser sur le flanc de la voiture et s'assied contre le pneu, le regard perdu dans le vide. J'avais ce tricycle avant. En métal, lourd. Le siège était rouge. Elle attend la suite, là où il veut en venir, peut-être. Mais rien d'autre ne vient. « George, » dit-elle.
« Qu'est-ce que tu essayais de recouvrir définitivement ?»« Tu as dit que tu essayais de recouvrir quelque chose dans une cave où il faisait chaud. » Son esprit dérive et puis c'est comme si les mots de Mary Pat lui parvenaient enfin à l'autre bout d'un long tunnel.
« C'est pas moi qui ai salopé le travail. »
Non?
De nouveau, il secoue lentement la tête. Moi, je fais pas de conneries avec le ciment. C'est eux.
Qui, eux?
Il se passe la langue sur les lèvres plusieurs fois. Vous savez bien.
Non, je...
Marty et Frank. Il la regarde fixement à travers des paupières à moitié baissées.
Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont voulu l'enterrer dans la cave, mais ils n'ont pas bien mélangé le ciment. Alors ils ont dû tout recommencer.
Deux grosses veines, une de chaque côté du larynx de Mary Pat, se mettent à palpiter. Dis son nom.
Jules.
Un sourire paresseux pour elle, tandis que l'héroïne submerge l'intérieur de son corps de la tête aux pieds.
Ils ont dû l'enterrer deux fois.